Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. La littérature africaine fait-elle vraiment vivre les auteurs et éditeurs qui en font leur passion et leur spécialité? Nous évoquons largement la question dans Coémergence, ce sera avec notre invité. Il s'agit de Rabia Marhouch, elle est écrivaine et éditrice, fondatrice de la maison d'édition panafricaine Africa Mood. Le business de la littérature et de l'édition s'invite dans Coémergence à l'occasion de la 28e édition du Salon international de l'édition et du livre, Le ciel qui se tient actuellement à Rabat. Après des jours de tension, un calme relatif prévaut au Sénégal. Les activités économiques reprennent progressivement. Nous ferons un tour à Dakar avec notre correspondante Sirmi Boukaka. Ce sera dans quelques instants dans les échos de la semaine. Enfin, dans le Zoom Express, nous revenons sur l'édition 2023 de l'Africa CEO Forum, un important événement des plus grandes entreprises africaines, marqué cette année par une très forte présence marocaine. Nous ferons le bilan dans votre rubrique Zoom Express. Quels sont les principaux sujets de Coémergence? Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Direction le Sénégal, après des jours de tension, un calme relatif prévaut dans le pays. Les activités économiques reprennent progressivement. Prenons donc la direction de Dakar pour y retrouver notre correspondante Sirmi Boukaka. Elle a parcouru les rues de la capitale sénégalaise et a pu constater le retour à la normale. Dans son reportage, elle nous parle aussi de l'impact des incidents sur les secteurs économiques du Sénégal. Écoutons son reportage.
Après une période de fortes tensions, la vie reprend son cours dans la capitale sénégalaise. Cet imprimeur a lancé son entreprise en avril dernier dans la commune de Médina à Dakar. Il a été contraint de fermer boutique ces derniers jours. Aujourd'hui, les affaires tournent au ralenti.
Cette situation est difficile. Nous sommes des pères de famille. On ne pouvait pas travailler à cause du climat sociopolitique. Nous avons repris nos activités. Ça fait 5 jours que les clients peinent à venir. Nous espérons que la situation va s'améliorer.
Au Sénégal, certaines universités ont subi les dégâts des manifestations notées dans le pays. Pour cet étudiant comorien venu étudier à Dakar, la reprise d'activité observée dans certaines administrations universitaires constitue un bon signe.
Moi, je trouve que c'est mieux parce que ça me dérangeait grave de voir comme quoi est-ce que je vais faire une année blanche ici et l'argent que je dépense et tout pour ça. Mais normalement, j'ai vu et actuellement, on a repris l'administration à l'UQAD. Et là, je suis rassuré que dans pas longtemps, même peut-être une semaine comme ça, on va reprendre cours. Donc, moi, je pense que c'est une bonne initiative.
Les émeutes déclenchées suite à la condamnation de l'opposant politique sénégalais Ousmane Sonko à 2 ans de prison ont des répercussions sur l'économie du pays.
Lorsque les marchés se ferment, les universités, le transport, c'est-à-dire ceux qui font le business, surtout si vous êtes dans un pays où la plupart des gens s'activent dans l'informel et que les gens ne peuvent pas travailler, l'impact économique social reste vraiment une chose qui ne fait pas de doute. Maintenant, pour pouvoir évaluer l'état des dégâts, je pense que dans les jours à venir, forcément, les autorités compétentes recevront les informations compilées.
En marge de l'atelier de lancement de la gestion du budget 2023, les autorités sénégalaises en charge des finances et du budget ont estimé un taux d'exécution budgétaire de plus de 95,7% pour l'année 2022. Selon ce docteur en économie, le Sénégal a besoin de paix et de stabilité pour y parvenir.
Merci à vous, Sirmi Boukaka, correspondante de Médian, depuis notre bureau de Dakar.
Zoom Express.
Direction Abidjan, où s'est tenue au cours de cette semaine l'édition 2023 de l'Africa CEO Forum, l'un des plus grands événements pour les grandes entreprises africaines. Cette année, cette édition a été marquée par une très forte présence marocaine. La délégation officielle du Royaume était conduite par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et comprenait également le secteur privé national. Mohsin Diazouli, le ministre délégué chargé de l'investissement, était également sur place. Il nous parle de la participation marocaine à cette édition de l'Africa CEO Forum.
Le Maroc a l'habitude d'être présent ici à l'Africa CEO Forum depuis de nombreuses années. C'est un habitué. Les entreprises marocaines ont reçu des prix régulièrement. Les hommes d'affaires viennent ici. Mais la nouveauté, c'est que le gouvernement est représenté ici avec le chef du gouvernement qui est venu avec cette délégation. Et bien sûr, l'ambition, c'est de partager l'expérience marocaine, la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de la coopération sud-sud, l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique, c'est ce que nous venons aujourd'hui représenter ici, et nous l'avons fait bien sûr avec l'interview du chef du gouvernement, l'interview croisée avec le Premier ministre Patrick Hachi, mais également cette Invest in Morocco qui était le Morocco Now du CEO Forum, où là encore nous sommes venus raconter de belles histoires entre le Maroc et le continent africain.
À peine 300 entreprises africaines dépassent le milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est beaucoup moins par rapport à l'Europe et l'Asie ou encore l'Amérique. Lors de cette édition 2023 de l'Africa CEO Forum, il était question de mettre le curseur sur les moyens de faire passer ces 300 entreprises africaines milliardaires en dollars à 3000. Comment y parvenir? La question a été largement débattue à Abidjan et notre correspondant Max Soyebou à écouter pour nous, suivons son reportage.
Les lampions se sont éteints sur la 9e édition du Africa CEO Forum. Un florilège de résolutions et de conseils ont découlé des nombreux panels, études de cas, ateliers et autres groupes de travail destinés à voir émerger un dialogue concret entre le secteur public et le secteur privé à propos de l'avenir économique de l'Afrique. Sans compter les discussions informelles, le réseautage et la conclusion du deal qui constituent l'ADN de l'Africa CEO Forum et sont l'occasion de prendre le pouls du moral des dirigeants africains.
Ensemble, nous avons exploré les moyens de faire passer le nombre de champions africains de 300 à 3000. Nous le savons tous, aujourd'hui, ils sont concentrés principalement dans 4 pays, mais il est important de travailler ensemble pour que ces champions existent dans tous les pays africains, y compris ici en Côte d'Ivoire.
À ce forum international, plusieurs sujets impliquant la compétitivité de l'économie africaine ont été évoqués.
L'avenir, c'est l'Afrique. Et nous sommes persuadés que le taux de croissance que nous voyons, le potentiel humain, mais également les ressources minières, pétrolières et agricoles, sont un gage majeur de ce que l'Afrique peut, je dirais, devenir dans quelques années, l'élément clé du monde entier.
L'Africa CEO Forum, c'est également des signatures de conventions de partenariat comme issues entre l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Construction et l'IFC. L'Africa CEO Forum 2023, c'est aussi et surtout la présence d'une forte délégation marocaine conduite par le chef du gouvernement. Présence qui démontre une fois de plus le leadership du Royaume du Maroc, mais également son exception et son exemple en ce qui concerne la coopération sud-sud.
L'invité.
Elle s'appelle Rabia Marouj, écrivaine, éditrice et fondatrice de la maison d'édition panafricaine Africa Mood. Avec Rabia Marouj, nous allons parler du business de la littérature et de l'édition dans Coémergence. Et ce, à l'occasion de la 28e édition du Salon international de l'édition et du livre Le Ciel, qui se tient actuellement à Rabat. Bonjour à vous, Rabia Marouj.
Oui, bonjour, Monsieur Baldé.
Alors, une première question, est-ce que la littérature africaine fait vraiment vivre les auteurs et éditeurs qui en font leur passion et spécialité?
C'est une question difficile, je pense. Enfin, de mon point de vue, de mon expérience, ce n'est pas possible de faire vivre l'éditeur et l'auteur. Vous savez, quand même, dans les pays où les marchés du livre sont bien structurés, bien développés, cette possibilité de vivre de sa plume ou la possibilité pour un éditeur de vivre simplement de l'édition, des fois, ça dépend de quel éditeur et de quel auteur. Donc, quand on est très bien connu, quand on est un blockbuster, c'est possible, mais quand on est moins connu, eh bien, il y a intérêt à avoir un deuxième métier. Donc, c'est d'ailleurs, ça a été beaucoup analysé en sociologie de la littérature. Les auteurs doivent avoir un deuxième métier parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur plume. Et en Afrique, bah, c'est pareil. En fait, et pour l'auteur et pour l'éditeur, ils doivent tous les deux, je pense, avoir un deuxième métier. On ne peut pas vivre uniquement de la plume ou de l'édition à moins d'être une grosse maison d'édition. Et ça, ouais, il n'y en a pas beaucoup.
Alors, pourquoi, sur le plan économique, ça ne prend pas? Est-ce par manque d'intérêt des lecteurs, par manque de possibilités d'éditer, ou tout simplement, malgré tout ça, c'est un créneau qui ne fait pas vivre de façon confortable? Allez, disons-le comme ça.
Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord tout le contexte du marché, parce que là on parle d'édition africaine, mais c'est assez complexe en fait. Quand on dit l'édition africaine, c'est très varié. Il y a l'édition africaine en fonction des régions, en fonction de pays. Il y a des modèles qui sont plutôt nationaux sur le plan économique, d'autres qui s'ouvrent transnational. Donc il y a certaines maisons d'édition qui le font, notamment moi je parle surtout de l'espace francophone que je connais un petit peu. Mais tout dépend, en fait, c'est la structuration déjà de la chaîne du livre qui est problématique. Quand le marché n'est pas bien structuré, n'est pas protégé, eh bien, c'est difficile de bien vendre ses livres, c'est difficile que les livres arrivent au lecteur. Et quand on parle sur le plan africain, c'est-à-dire transnational, c'est encore plus difficile parce qu'il y a toutes les frontières douanières, il y a les problèmes bancaires, il y a les problèmes de circulation des décisions de distribution des livres, des points de vente. C'est très varié d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui sont difficiles hein, pour faire émerger une économie du livre, on va dire, solide. Mais donc, nous, nos choix de Africa Monde, on a fait le choix d'être à la fois sur le marché local marocain national et comme d'autres maisons d'édition, comme Proximité au Cameroun, par exemple, on essaie aussi de s'ouvrir au marché transnational francophone. Donc voilà, donc on compose avec ces deux marchés, avec leurs contraintes, avec les difficultés d'organisation de la chaîne du livre, des coûts aussi du transport des livres hein, d'un pays à l'autre. Donc il y a tous ces paramètres-là. Qui font que voilà, le modèle économique reste quand même souvent assez fragile.
Alors, on va parler tout à l'heure du digital hein, dans tout cela, mais prenons point par point. L'auteur, les auteurs, les écrivains, est-ce qu'eux parviennent à tirer leur épingle du jeu?
Ben, les auteurs, vous savez, c'est difficile. Quand c'est difficile pour l'éditeur de diffuser, de distribuer, de vendre les livres, c'est difficile aussi. Donc, du coup, pour l'auteur de récupérer, d'avoir un montant important de droits d'auteur pour pouvoir vivre. Donc tout est lié parce qu'en fait, si vous voulez, toute la chaîne du livre, tous les acteurs de la chaîne du livre, on vit tous sur le prix du livre. C'est-à-dire, si le livre coûte 100 dirhams, ça va être 40-45% pour le diffuseur-distributeur, avec 30% pour le libraire. Ça va être donc du coup 10% ou 12% pour l'auteur, 19% ou 20% pour l'éditeur, dans lesquels il va inclure toutes les charges, les fabrications, les coûts de fabrication, les coûts d'édition et tout ça. Et ce qui reste en fait à la fin, c'est un petit pourcentage de bénéfices. Donc on vit tous sur le coût du livre. Et si le livre, il y a des difficultés à le faire circuler, à le vendre, toute la chaîne, finalement, se retrouve à ne pas avoir beaucoup de marge.
C'est intéressant comme explication. Mais la littérature africaine aujourd'hui, est-ce qu'elle fait recette? Je veux dire, si on prend que ce soit les classiques, hein, les auteurs de la négritude, ou disons la littérature entre guillemets du passé et celle du présent, est-ce que ça intéresse le public, pas qu'au Maroc, mais à travers l'Afrique et le monde?
Alors là, en fait, vous parlez du coup de vous situer le modèle économique dans l'économie mondiale du livre. Et c'est vrai que la plus grosse partie de la littérature africaine, elle est éditée à l'extérieur de l'Afrique. Et c'est une grosse part de marché, mais qui est faite en fait à l'extérieur de l'Afrique. Et là, évidemment, la littérature se porte bien africaine, hein. Ça se vend bien, surtout que les auteurs, ils ont de grands prix littéraires. Vous avez vu tout récemment le prix Nobel, le prix Goncourt, etc. etc. Donc là, c'est un autre modèle économique. Et moi, je pensais, je parlais uniquement du continent africain. Et sur le continent africain, je pense que le public voudrait bien lire ou relire les classiques africains, mais ils ne sont pas édités par des maisons d'édition africaines, ce qui impliquerait qu'il y aurait le prix du livre serait moins cher et du coup accessible. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des questions de droits d'auteur. Ce sont des auteurs qui ont été édités à l'étranger et les droits sont la propriété des éditeurs étrangers. Donc il faut trouver des collaborations, des formes de collaboration nord-sud pour pouvoir faire des rééditions. Et c'est l'une en fait de notre axe de ligne éditoriale dans Africa Mode, d'essayer de négocier, d'avoir des titres de classiques africains et d'écrivains contemporains d'ailleurs, pour les éditer et les diffuser en Afrique au public africain à des prix qui seraient accessibles à ce public-là.
Mmh. Alors, il y a quand même la révolution du digital, le digital qui fait très mal d'ailleurs au papier en termes de lecture. Est-ce qu'il y a cette reconversion ou cette transition vers le digital pour et les auditeurs, et les auteurs et les écrivains, et les éditeurs plutôt?
Alors la transition vers le digital est très très intéressante, donc à la fois pour le livre numérique, le format EPUB, mais aussi pour les livres audio. C'est ce qui est vraiment intéressant, surtout pour la littérature jeunesse, les livres audio. Donc ça c'est très important. Mais ça, la question encore une fois, c'est la diffusion et la distribution, parce qu'il faut des plateformes digitales pour distribuer. Moi je parle du marché africain pour distribuer ce genre de littérature en Afrique. Il faut des plateformes numériques de diffusion, de distribution et de vente de ces produits-là, quand ils sont les éditeurs, ils peuvent les faire, ils peuvent les préparer, les livres audio, les livres EPUB, mais il faut les vendre après. Il faut passer par quelle plateforme? Et souvent, il faut passer par des plateformes étrangères pour le faire en Afrique, pour les vendre en Afrique. Alors ensuite, il y a la question de l'achat de ces produits numériques, parce qu'il faut avoir une carte bancaire, vous savez, comme pour payer en ligne, pour acheter un livre numérique audio. Et on sait que la majorité peut-être des publics, en fonction des pays d'Afrique, ils ne possèdent pas ce moyen-là. Donc il faut trouver d'autres moyens, même acheter des bibliothèques numériques, des livres numériques sur leur téléphone. Donc ça peut être intéressant. Et c'est quelque chose qui est réfléchi par plusieurs plateformes. Il y a par exemple la librairie Préface là, que j'ai rencontrée au Salon du Livre au Ciel, donc la librairie marocaine, qui réfléchit justement à une plateforme numérique, alors de vente à la fois de produits de livres numériques, mais aussi de livres en papier, mais en passant par une plateforme numérique. Donc ça peut être vraiment super... intéressant.
Mmh. Merci à vous, Rabia Marouge. Je rappelle que vous êtes écrivaine, éditrice et fondatrice de la maison d'édition panafricaine Africa Mode. Vous nous parliez à l'occasion du 28e Salon international de l'édition et du livre Le Ciel, qui se tient à Rabat et qui se referme donc ce dimanche 11 juin. Merci d'avoir été notre invitée dans Coémergence.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Média et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.